Bonsoir à toutes et à tous. Dans ce nouveau numéro de Histoire Nocturne, je vous invite à découvrir un fait divers érotico-burlesque digne d'un film de Woody Allen. Une affaire qui a donné naissance à la police scientifique. L'assassin n'a rien d'un tueur en série, d'un terroriste fanatique ou d'un dangereux psychopathe. Le crime est vraiment partout, même dans les boudoirs, et savamment utilisé, une délicate petite cordelière de robe de chambre peut devenir aussi redoutable qu'une Kalachnikov. Bienvenue dans l'histoire nocturne. Votre maîtresse vient de passer tendrement la cordelière de son peignoir autour de votre cou. Vous croyez à une gentille mise en scène érotique ou à un délicat préliminaire. Mais dans 2 minutes, vous serez mort, pendu, haut et court. Si vous croyez aux vertus érotiques de la strangulation, écoutez donc l'histoire de la jolie Gabrielle Bompard et du très inventif Michel Hérault. La scène se passe en juillet 1889 dans le boudoir d'un appartement dans une rue calme du 8e arrondissement, proximité de la Madeleine. Gabrielle, jeune femme voluptueuse et potelée, fidèle au canon esthétique de l'époque, danse langoureusement devant son amant. Son peignoir de satin et de dentelle ondule autour d'elle. C'est la danse des 7 voiles au cœur de Paris. L'homme en face d'elle se délecte en fin connaisseur des splendeurs aperçues par l'entrebâillement du tissu et il songe aux plaisirs qui l'attendent. Elle n'est pas Salomé ni lui Hérode. Son admirateur d'un soir est un huissier de justice dont l'étude est située rue Montmartre. Blond, plutôt bien fait de sa personne, la 50aine respectable du bourgeois à l'apparence toute sage. Toussaint-Auguste Gouffet est en réalité un coureur de jupons, un homme volage, un séducteur, un libertin, un bourgeois désinhibé, un jouisseur, un maître-cuisseur, un obsédé sexuel. Bref, nommez-le comme vous voulez, mais une chose est sûre. Les jolies femmes le rendent fou. C'est sa faiblesse. Quand il monte l'escalier derrière la jeune Gabrielle, il est loin d'imaginer que la mort peut avoir un aussi joli cul. Des escaliers, il en a grimpé plus d'un. La fréquentation des maisons closes fait partie de l'éducation sentimentale de l'époque et Gouffet s'y adonne avec frénésie. Pas un jour sans aller visiter ces dames. Cette fois, il se rend dans le charmant boudoir de la rue Tronçon du Coudray. Une rue discrète et méconnue du grand public. Comme l'était Philippe Charles Jean-Baptiste Tronçon du Coudray, un militaire français spécialiste de l'artillerie. En 1777, il avait embarqué au Havre pour l'Amérique avec quelques officiers et 200 canons pour prêter main forte aux troupes de George Washington dans sa guerre d'indépendance. Il ne mourut pas en héros emporté par un boulet de canon, mais de manière plus prosaïque. Son cheval prit peur un jour qu'il traversait une rivière en Amérique sur un bateau plat. Le militaire fut précipité à l'eau et se noya. Son frère, Guillaume Alexandre, lui, devint célèbre pour avoir eu le redoutable honneur d'être l'avocat de Marie-Antoinette. Soupçonné de sympathie royaliste, il fut déporté en Guyane où il mourut 1 an après son arrivée. En 1889, Gabrielle est la maîtresse de Michel Hérault, un ancien légionnaire de 46 ans qui a combattu au Mexique, un aventurier de l'escroquerie qui se cherche encore un destin. L'homme est ruiné. Pour surmonter cette situation indigne de son rang et surtout de l'image qu'il a de lui-même, il va imaginer un plan tout simplement diabolique et diaboliquement simple dont il sait qu'il marchera à tous les coups et dans lequel Gabriel jouera un rôle central, le sien. Celui d'une fille à la cuisse légère et que les scrupules n'effraient sans doute pas puisqu'elle accepte de participer au scénario de son amant. Héros qu'on est bien lui si égouffé. Quand on est dans le besoin, on se rapproche de ceux qui peuvent vous en sortir. Mais peut-être serait-il encore plus intéressant, mort que vivant ? En le faisant disparaître, Héro pourrait mettre la main sur son argent, ses bijoux, ses coffres. Un huissier de justice, ça émarge à combien par mois ? Le plan est vite échafaudé, les acteurs sont en place. Ayant eu vent de la réputation libertine du bonhomme, Héro lui présente sa jeune maîtresse de 20 ans. Le piège fonctionne mieux encore que prévu. Gabriel passe et repasse, sa langue sur ses lèvres, bombe la poitrine et cambre les reins. À la troisième œillade, l'huissier est conquis. Pour mettre Gabriel dans le lit de sa future victime, il ne reste plus à Héro qu'à lui annoncer officiellement sa rupture avec la jeune femme. Peu importe la raison, la première qui lui passe par la tête sera la bonne.
Vous savez, cher ami, à quel point les femmes sont vénales. Un peu de diversité sexuelle ne nuit pas au désir. La chair est faible, hélas, et à nos âges, n'est-ce pas, nous avons lu toutes les femmes. Ah, l'amour. Comme dit Pascal, il tient à si peu de choses. Sa cause est un je ne sais quoi, et ses effets sont effroyables, n'est-ce pas ?
L'huissier, par l'odeur du sexe alléché, persuadé que l'affolante Gabrielle est désormais libre, n'a plus qu'une seule idée en tête, en faire sa maîtresse. De son côté, elle se débrouille pour le croiser.
Oh, cher ami, quelle surprise!
Le soir même, elle lui donne rendez-vous chez elle, rue Tronçon du Coudray. Il est court. Un rendez-vous galant, une escapade légère, un peu de chair et de mousseline de soie dans la vie très grise d'un honorable huissier et bon père de famille. Gouffet entrevoit déjà le septième ciel. Et il va y monter très vite, suspendu au bout de la cordelière du peignoir de sa jeune conquête. Il ne voit rien quand elle la lui met autour du cou. Ravi, continue de suivre le chaloupé de ses reins. Il suffirait qu'il lève les yeux pour découvrir qu'à présent la cordelière est reliée à une corde, elle-même passée dans une poulie au-dessus d'une tringle dissimulée par un rideau. Mais il est tout à son enchantement, entendant l'extase. C'est là qu'entre en scène Michel Héro, caché derrière le rideau et grimpé sur un escabeau. Il a déjà attrapé la corde et il ne lui reste plus qu'à sauter à terre pour tirer violemment. L'étreinte de la mort remplace celle de l'amour. Gouffet s'étrangle, se débat, sa main agrippe le rideau, découvrant Héro qui tire de plus belle. Une dernière convulsion et puis l'huissier n'est plus. Lui qui pensait monter au septième ciel s'est arrêté à 30 cm du sol. Le malheureux homme est délesté des quelques bijoux qu'il a sur lui et de la clé de son étude. Le légionnaire et sa courtisane courent rue Montmartre, mais après l'inspection minutieuse du bureau, ils ne trouvent rien. Rien en tout cas qui justifie le stratagème érotique imaginé pour piéger la poule aux œufs d'or. Adieu le Pérou. Adieu l'Eldorado. Reste le cadavre, éternel et problématique qui transforme le crime le plus simple en véritable casse-tête. Dans les affaires criminelles, c'est l'avenir du cadavre qui décide de la réussite ou de l'échec du forfait. Oui, tout se joue sur le cadavre.
Ce produit fini dont nous sommes la matière première.
Ainsi que l'écrivait Ambrose Bierce, un brillant auteur américain. Le cadavre, on peut le découper à la scie, le déposer dans une consigne à la gare, le passer à la moulinette, le dissoudre dans la chaux vive, le noyer, le larguer dans la mer de Sargasses, la seule mer sans rivage. On peut l'emmurer, le balancer à la déchetterie, le livrer aux flammes du fourneau. On peut le recycler en petites pilules hallucinogènes, le manger ou le donner aux chiens. Un jour, sans doute, on l'enverra dans l'espace et on le placera en orbite autour de Pluton, le dieu des enfers. Chacun fait selon ses goûts et ses possibilités, mais il existe une règle à laquelle il ne faut pas déroger. Ne surtout pas jeter un cadavre dans un fossé en se disant que la nature fera le travail à votre place. Elle ne le fait jamais complètement. À chacun ses responsabilités. Deux amants assassins ont enfermé le corps de Toussaint-Auguste Gouffé dans une grande malle à bois qui appartient à Gabriel et qu'ils ont acheté à Londres. D'où plus tard le nom de l'affaire dite de la malle à Gouffé. Un fiacre les emmène ensuite à Amillery, une petite commune entourée de vignobles, un coin tranquille où personne ne les voit lorsqu'ils balancent le corps dans un buisson. Erreur de débutant. 15 jours plus tard, les habitants du secteur se plaignant d'être incommodés par une odeur pestilentielle, un cantonnier repère l'endroit où, la chaleur aidant, le corps est en pleine décomposition. Ce qui reste de l'huissier imprudent apparaît à ses yeux.
Oh, c'est un magma de chair, hein, décomposé. Je crois que c'est un humain. Oui, je crois.
Dira-t-il à la police. Peu de temps après, un chasseur d'escargots tombe sur les débris du mâle taché de sang. La police parvient à faire le lien entre les deux découvertes macabres, mais la malle ne fournit aucune information supplémentaire. Le commissaire parisien, qui mène enquête sur la disparition de l'huissier de la rue Tronçon du Coudray, délègue sur place un de ses agents accompagné du beau-frère de la victime. Ce dernier ne reconnaît pas Gouffé, car le cadavre a des cheveux noirs alors que ceux du disparu étaient blancs. Scrupuleuse, la sûreté parisienne chargée de l'enquête demande une contre-expertise au professeur Alexandre Lacassagne. Beaucoup ont attribué la naissance de la police criminelle à cette collaboration entre la police et le pionnier de l'anthropologie criminelle. Médecin légiste, Alexandre Lacassagne est l'un des cofondateurs de la première revue de criminologie. Régulièrement, il quitte sa chaire de médecine légale à la faculté et son laboratoire pour inspecter les morgues et les prisons. Confronté aux cadavres trouvés dans le buisson, il fait nettoyer à l'eau claire les cheveux trempés de l'humeur provoquée par la putréfaction et ces derniers reprennent leur couleur blond foncé. Ensuite, il mesure de nouveau le squelette au millimètre près. De 1,75 m, il passe à 1,78 m, soit exactement la taille de l'huissier. Enfin, il repère une atrophie de la cheville gauche, mal dont souffrait Gouffé. Le mort est identifié, il s'agit bien de Toussaint-Auguste Gouffé, mais les coupables, eux, se sont évaporés. Ils ont déjà traversé l'Atlantique. Paris, l'enquête avance et remonte peu à peu jusqu'à Michel Hérault, client aux affaires véreuses de Gouffé, dont on trouve étrange la disparition depuis la fin du mois de juillet, à la même époque que l'huissier. La malle a été reconstituée, morceau par morceau, et exposée un temps à la morgue de Paris avec appel à témoins. Jusqu'au jour où un cuisinier anglais écrit au chef de la sûreté Goron pour l'informer qu'il a hébergé un couple dont la malle ressemblait à tout point à celle du crime. Jour après jour, les signalements se multiplient et se recoupent. Deux noms remontent avec insistance, Michel Hérault et Gabriel Bompard. Mais comment mettre la main sur eux sans preuve réelle ni mobile? En espérant que les coupables qui se savent recherchés, la presse a fait de l'affaire un véritable feuilleton, se manifeste d'eux-mêmes. et contre toute attente, c'est ce qui arrive. Vers la fin de l'année, deux lettres parviennent au préfet de police de Paris et au chef de la sûreté. L'une de Gabriel vient de Montréal, l'autre de Héros a été postée à New York. Les deux anciens amants nient respectivement en bloc toute responsabilité dans la disparition de l'huissier. Seulement deux mois plus tard, la douce Gabrielle débarque sans crier gare dans le bureau du préfet de police Lozé et reconnaît qu'elle n'est pas étrangère à l'affaire. Mais elle balance son complice en faisant le seul assassin de l'histoire.
« Il m'a forcé, monsieur le préfet, il m'a forcé, oui !»
Quand Lozé lui demande ce qui motive ce revirement subi, la jeune femme Rosie est bas des cils.
C'est que je suis amoureuse, monsieur le préfet. Oui, je suis amoureuse.
Si la gamine ne lui inspirait pas tant de méfiance, il en sourirait attendri. L'histoire qu'elle raconte avec une spontanéité confondante le laisse rêveur. Elle vient de tomber amoureuse d'un aventurier français, celui-là même qu'Héro a projeté d'assassiner en rejouant exactement le même vaudeville macabre que celui de la rue du Tronçon de Coudray. Séduire ce pauvre garçon et lui passer au cou la cordelière fatale. Mais l'amour a ses raisons que le crime ne connaît pas. Elle a révélé à son nouvel amant les sinistres intentions de son ancien maître.
« Fuyons, fuyons l'Amérique, mon amour, partons au Canada !»
Seulement, une fois au pays de l'érable, son bel aventurier lui conseille de rentrer en France pour témoigner et purger ce passé qui lui colle à la peau. En bonne amoureuse, Gabrielle obéit et s'exécute. Elle a mis tout son charme et sa séduction dans cette confession inattendue, mais si elle pensait ressortir libre du bureau du préfet, elle a fait preuve de naïveté. En attendant de coincer Héros, on la garde au chaud. En prison. À Paris, on ne parle plus que de l'affaire. Sur les trottoirs des quartiers populaires, des camelots vendent des petites malagouffées. À l'intérieur, un pantin articulé rappelle la pendaison d'amour dont l'huissier a été victime. Au musée Grévin, on reconstitue le crime. Au spectacle, on rejoue les surprises du meurtre et de l'amour en mettant en scène l'histoire du boudoir. Dans les dîners mondains ou en famille, on ne parle plus que de Mademoiselle Bompard, divine salope ou bécasse manipulée. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi la presse qui relate tous les détails du crime prend fait et cause pour Gabrielle. Pour elle, Héros est le seul responsable. Elle les a tous rendus fous. Tandis que Paris glousse, la police travaille. L'inventeur de la pendaison d'amour est arrêté à Cuba alors qu'il pensait refaire sa vie avec une fausse identité. Pas facile de se cacher quand on a fait régulièrement la couverture de l'illustration. Premier hebdomadaire français à publier des photographies en noir et blanc dans les années 1890. Il n'a pas eu de chance. Deux commerçants français l'ont reconnu et ont signalé sa présence sur l'île. Quand il débarque à Saint-Nazaire, sous étroite surveillance de la police, une foule avide en hurlant qu'on le punisse. Et quand il sort du train à la gare Saint-Lazare, des centaines de personnes se pressent sur le quai pour le voir. Héros est terrifié, il refuse de descendre du train. Le chef de sûreté Goron doit pratiquement le traîner. Arrivé au 36 quai des Orfèvres, l'homme s'affale sur un fauteuil épuisé, hagard. Il se regarde longuement devant un miroir et Goron l'entend murmurer...
Mon Dieu, comme j'ai changé. Oh.
Il semble effectivement que la vie soit passée comme un bulldozer sur l'escroc d'autrefois. À son procès, le manipulateur retrouve sa vitalité et sa hargne pour charger sa complice, déclinant tout droit d'auteur dans l'invention de la cordelière magique. Pas de perdu. En rentrant avant lui, elle a préparé le terrain et désormais, elle a un coup d'avance. Le salaud, c'est lui. La femme perdue, c'est elle. La justice a beau se vanter d'être rigide et incorruptible, ceux qui la rendent ont aussi leurs faiblesses.
Circonstances atténuantes,
diront les juges. La douce Gabrielle les met tous dans sa poche et n'écope que de 20 ans de travaux forcés. Elle sortira au bout de 13 ans, graciée par le président de la République, Émile Loubet. Le 3 février 1891, place de la Roquette devant une foule immense, Michel Hérault marche vers l'échafaud. Il est agité, nerveux. Jusqu'au bout, il ne décollera pas que la coquine n'ait même pas pris perpète. C'est un certain Debler qui l'entraîne vers la bascule pour actionner le couperet. Debler, le bourreau dont les Parisiens clameront le nom dans les rues quelques années plus tard lors de l'affaire Soleiland pour que la peine de mort soit maintenue et son boulot par la même occasion. C'était Histoire Nocturne. Sachez que vous pouvez retrouver toutes ces affaires dans Paris, capitale du crime, de Frédéric Diéfenthal et de Paul-Henri Moinet, un ouvrage publié aux éditions Livre de Poche. Je vous dis à demain pour un nouveau dossier. Sur ce, je vous la souhaite douce et bonne. Cette nuit, bien sûr. Bye bye.